Sur la planète, du Big Bang à la société de l'information, le rythme et la musique parcourent le temps et investissent l'espace sonore. Les collecteurs de sons, anthropologues modernes, tentent de comprendre le lien entre ce phénomène et l'humanité. Bernard Lomax et son équipe accueillent chaque soir de concert les invités qui devraient leur permettre de découvrir la vérité. Radio HDR et le 106 présentent Radio Lomax, l'émission du 106.
Bonjour et bienvenue dans l'émission du 106 Radio Lomax, chaque lundi à 18h et rediffusée les samedis à 10h, écoutable également en direct chaque soir de concert sur la web radio du 106, radio.le106.com. Aujourd'hui, les interviews de ADM Kumusta, Lords of Altamont et Slim and the Beast.
Radio Lomax, l'émission du 106.
On accueille ADM pour commencer, Romain, aka Baboon, aka ADM, rappeur rouennais, mais de Louviers dans l'heure au départ, m'a-t-on précisé.
T'es pas obligé de le dire.
Ah ben, on m'a dit qu'il fallait que je le précise. Avec Cham qui fait les bacs ce soir, bonsoir.
Coucou.
Coucou.
Ça fait quelques mois qu'on voit passer des clips d'ADM, à chaque fois on prend plaisir à les découvrir, on se dit même quel talent d'écriture, quel personnage sympa et en même temps qui fait affleurer ses failles, du décalage, du noir et blanc, du fluorescent, du léger, du dark. On note que ADM est aussi chanteur du groupe de hardcore Elephants. Bon, j'imagine qu'on va pas chercher les mêmes sensations quand on fait Elephants, quand on est avec Elephants ou quand on est sous le pseudonyme d'ADM.
Ah oh bah de plus en plus en vrai.
C'est vrai ?
Ouais, ouais. Bon, au départ, pas trop, tu sais. Et au fur et à mesure que je mange des danettes comme ça, tu vois, je commence à me rendre compte qu'en vérité, la notion de guerre et de
chapelle
et de bazar et de torture est vraiment sympa, quoi, à vivre.
Ouais, ça veut dire que ouais, c'est il y a le même engagement physique parce que.
Bah écoute, tu vois ce mec. Mais en vrai, bah le même engagement physique, non, pas vraiment le même parce qu'en vérité, c'est pas la même technique vocale, c'est pas les mêmes respirations, c'est pas les mêmes trucs. Mais on et puis c'est pas la même culture surtout, donc l'énergie est pas franchement la même, mais on est quand même sur un truc un peu rentre dedans de plus en plus quoi. En tout cas on essaie de le faire scéniquement quoi, pas forcément dans les morceaux qu'on enregistre, mais scéniquement on essaie de y aller quand même
parce
quoi.
Que c'est pas forcément une évidence effectivement, tu le disais, c'est pas la même culture et, ouais. Mais toi tu rentres là-dedans dans les deux avec la même authenticité, sincérité, on va dire.
Avec les mêmes lunettes.
Et Cham, je te voyais chanter un peu Elephants là. Toi, t'as un projet aussi hip-hop.
Oui.
Mais le métal, ça te parle aussi ?
Oui, ouais, j'aime bien. Après, j'en ai jamais fait, mais j'écoute ce que fait Romain beaucoup, puis d'autres trucs, mais. Ouais, j'aime beaucoup.
Alors, on note aussi un passage par le festival Les Terrasses du jeudi ou les Faits Divers dernièrement à Louviers. Vous êtes parrainé par le 106. Alors, un coup, je dis tu, un coup, je dis vous. Ça veut dire quoi concrètement ? Pour ADM d'être parrainé par le 106 ?
Eh ben, je vais te l'expliquer très concrètement. Ça veut dire se former à Ableton grâce à l'aide de mon ami Arthur Lombard.
Donc le travail des sons plutôt ?
Ouais, ouais, moi je fais pas de prod. Et là, je commence à en faire avec ça. Et du coup, c'est super.
Ça veut dire que tu vas chercher tes prods où pour le moment ?
Mon ami Cham est un très bon compositeur. Après, là, je suis en train de sortir un EP. Où c'est un mec qui s'appelle Didai qui m'a fait des prods. Et puis voilà, Nico de Christine, il m'en a fait une aussi sur ce projet-là.
Parce qu'il faut dire aussi que tu es sur le label Mouton Noir, oui. Qui est au départ une émanation aussi, en partie, on va dire, de Christine, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est le label de Nico qui est la personne qui a le groupe Christine, en fait, quoi.
Et l'écriture, alors, comment ça vient ? Comment ça démarre ?
J'écoute Arouf Gangsta tous les jours, ensuite un peu de Jean-Louis Coste.
Ouais.
Et puis, je sais pas si tu connais, j'avais déjà
entendu parler de Jean-Louis Coste,
tu vois.
Ouais.
Et puis après, on ferme les yeux et puis on met un slip, quoi.
La magie opère.
Voilà, c'est ça.
Jean-Luc Coste, le niveau est élevé. Hein,
quand même. C'est pour ça que, quitte à avoir des modèles, autant qu'il soit très fort, quoi. Tu vois. Et puis lui, il est très fort, quoi.
Bon, il aime beaucoup le caca aussi.
Ah, il adore tout ça, mais en fait, on l'aime tous. C'est juste que lui, il l'assume fort, quoi.
Tu cites Virus dans les interviews.
Cacahuète, qu'est-ce qui se passe en fait ? Tu t'en reviens à celui que t'étais, avec l'expérience de celui que t'as essayé d'être.
très exactement cette phrase-là, virus, on en parle ?
Si tu veux, mais du coup je pourrais plus dire des blagues si on en parle, je vais être obligé de dire la vérité. C'est un mec qui écrit très très bien, je trouve. C'est celui qui écrit le mieux, je trouve. Et donc du coup, moi j'aime bien plein de trucs, pour différentes raisons, de forme, de fond, machin. Mais dans les textes purs et durs, quoi, je trouve que lui c'est le plus fort, quoi. Vraiment, il est trop fort, quoi. Il fait mal au visage. T'as déjà vu un concert de virus ?
Ouais.
C'est pas la fête, hein.
Non.
Et c'est ça qui est balèze.
Et ouais.
Ouais.
Et justement, qu'est-ce que ça imprime chez quelqu'un comme toi d'écouter du virus et de se dire que...
Ça imprime la même chose qu'un mec qui a 16 ans et qui découvre Slipknot et qui fait waouh, tu vois. Enfin, ça imprime rien. Ça imprime un truc dans le fond, je pense. Après, je suis pas en train de me dire tous les jours, oh tiens, j'adore Virus, alors du coup, il faudrait que je fasse pareil. C'est pas le projet.
C'est cette notion de sincérité aussi, de dire les choses telles qu'elles sont. Non, pas forcément.
Non, c'est l'esthétique, quoi. Il est fort, il écrit des trucs, c'est noir, c'est bien fait, c'est pas gratuit. Tu sens qu'il y a un fond de vrai dans ce qu'il raconte. Il le fait bien. En plus, il y a un replay value de ouf, parce que tu peux écouter un morceau 10 fois et dire, ah oh, putain, j'avais pas compris cette phase-là, comment elle est bien, en fait. Et c'est fort. Et du coup, c'est tellement fort qu'il se fait l'économie de plein de trucs. Il se fait l'économie de techniques de rime, qu'on se fait tout chier employé pour que ça sonne. Lui, il s'en branle parce qu'il a pas besoin de ça, tu vois. Et il a un réel univers, quoi, tu vois.
Mais on sent que dans ADM aussi, il y a ça, il y a le côté sombre aussi qui peut ressortir à tout moment.
Ouais, le métal.
Non, mais ouais, c'est peut-être ça.
Le
ouais.
Cœur noir.
C'est peut-être ça, effectivement, le côté métal du projet ADM, quoi.
Non, en vrai, je rigole quand je dis ça.
Mais moi, je rigole pas.
Ouais, je sais, mais moi, j'ai envie de rigoler un peu, bon, avec toi-même.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Est-ce qu'il y a une clique autour d'ADM ? Alors oui, il y a une clique.
Ouais.
J'ai vu Avatar Productions, Studio Carré, Mouton Noir, on en parlait.
Alors du coup, tout ça, là, tu fais un peu le retracement de tout par où je suis passé.
Ouais.
Mais en vrai, il y a les gens avec qui je travaille, tu vois. Donc ouais, Studio Carré, c'est pour l'instant celui qui fait mes clips, par exemple. Mais c'est un pote, quoi. Et c'est Cartoon du groupe Octave qui tient ça. Mais après, la clique, la vraie clique, c'est Cham, un autre rappeur de Rouen qui s'appelle Soren, Soren Kada, et puis voilà, les gens avec qui je bosse tout le temps, quoi. Et du coup, Nico, voilà, les deux Nico. Et d'ailleurs, Cham a trouvé un super nom à cette clique, c'est le gang bien trop qualitatif. Je te laisse faire l'acronyme, tu vas voir, c'est rigolo.
Je vais pas la faire tout de suite parce que sinon ça va me perturber.
Non, comment
on travaille avec Romain ? Comment on bosse avec lui ?
On essaie de s'amuser comme on peut.
Ouais, voilà. il faut s'amuser, c'est important, ça.
Ouais,
quand même.
Ouais, il faut que ça se passe bien.
Ouais.
Sinon, c'est pas. De toute façon, c'est pas constructif et si c'est pas cool, en fait.
Il a un petit côté gourou aussi, non ou pas ?
Pas vraiment. Je pensais, non. Tu vois, mais en fait, non.
Parce qu'il a un peu
pas
une tête
tout.
De gourou, des fois. Et puis, c'est un peu perturbant parce qu'ADM, c'est aussi un groupe d'obédience catholique, les anges du ministre.
Ouais, et ça, on peut en parler. Ça,
attends,
c'est trop bien.
Qui chante sa foi sur les clips.
Oh, ouais.
Il n'y a pas de plus grand amour.
ADM.
Je suis trop content, mec.
C'est vrai ?
J'ai mis des sons sur Spotify. Enfin, j'ai mis un son sur Spotify, tu vois. Après, j'ai tapé ADM. Je suis je me trouve pas. C'est quoi ça ? Les anges du ministère. Comment c'est bien ?
C'est de l'amour, quoi.
C'est de l'amour en bloc, quoi. Et l'amour pour le très haut, surtout, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est de cet homme dont chantent les louanges, les ministères. Le ministère, comment on dit déjà ?
Les anges du ministère.
Les anges du ministère, voilà.
J'ai pas de notes, moi, je le sais.
Vous êtes venu pour délivrer un message, vous aussi, ou pas ?
Eh bah bien sûr.
Quel est le message ?
Bah tu peux repasser la chanson s'il te plaît.
De l'amour, quoi.
Bah, de l'amour, de la fraternité, des danettes au chocolat pour tout le monde, voilà, tout ce qui est... Pas oublier
fromage,
de s'acheter
du
fromage, beaucoup de fromage, ne pas sous-estimer l'importance d'avoir un slip de qualité.
Des chaussettes de qualité.
Des chaussettes
je sais
de qualité.
Ouais, ouais. Plus important.
Et ça, tiens, tu vois, ouais. Ça, super important. Enfin, tu vois, tout, enfin, un message universel quelque part.
Et dans Je pense, il y a quand même. Tu dis perdu dans mes vieux projets menottés. C'est quoi ces vieux projets ? On parle de musique là ou pas ?
Oh, je sais plus.
Je pense que ça fait partie du dernier EP, ça.
Ça fait partie de l'EP que j'ai sorti avant de bosser avec
Mouton Noir.
Donc je dis ouais, perdu dans mes vieux projets menottés, je sais plus quoi, je la joue plus.
M'entends grelotter.
Exactement. Ouais, je voulais écrire un truc un peu tristoun, pour dire que c'est pas tous les jours la fête, quoi.
Ouais, ouais.
Que du coup, des fois, tu fais des trucs, tu sais plus trop pourquoi tu les fais, tu sais pas s'il fallait te référer à ce que tu faisais avant, faire autre chose, nan.
Et en même temps, on peut tout faire à la fois.
Ouais, enfin c'est un truc de mec qui se prend la tête quoi, tu vois.
Les chansons vertes, le principe c'est quoi? C'est le fond vert?
Ouais, c'était faire n'importe quoi à fond la caisse, c'était vas-y, en septembre j'ai rien, viens je trouve un moyen facile de faire des trucs rapides, machin. Du coup j'ai dit au type avec qui je bossais qui était Avatar Prod justement, je lui ai dit vas-y, je fais un fond vert et tu mets ce que tu veux quoi, mais je veux juste que ça ressemble à rien quoi.
Et c'est fini ça, les chansons vertes?
Bah ouais. Bah ouais, parce que du coup j'ai fait d'autres trucs quoi, et je prépare d'autres trucs, mais...
Ouais.
Mais
parce qu'il y a eu pas mal de trucs quand même ces deux dernières années, on va dire. Il y a eu régulièrement des clips.
Ouais, mais je me suis un peu endormi là. Du coup, je vais me réveiller. J'ai fait pas beaucoup de trucs là ces 6 derniers mois, donc je vais un peu accélérer le truc, je pense. Mais
Et du coup, alors donc ce soir, il y a l'ouverture pour Lorenzo.
Ouais.
Et après, qu'est-ce qui est au programme pour ADM?
Bon, on va boire plein de bières.
Ouais.
Ah, tu veux dire plus tard dans la musique?
Ouais.
Bah, faut que je sorte mon EP là, donc je vais faire ça.
Donc il sortira quand ce EP là?
Il va sortir tout début avril, je pense. Et après, on est déjà en train de bosser d'autres trucs, d'autres sons, dans une autre esthétique. Parce qu'on a juste nos trucs tout le temps, quoi. Et du coup, on a envie que ça soit un peu plus énervé encore, tu vois. Et que ces jeunes courent voir Lorenzo, fassent pareil pour moi un jour, tu vois. Et qu'ils courent très vite alors qu'ils savent pas qu'il est pas en train de jouer. Et du coup, quoi d'autre. Et on joue en mars à l'ECFM de Canteleu avec des groupes de qualité, avec Junior Freeman et Octave.
Dans le cadre des festivals des cultures urbaines
dans
Canteleu.
Le cadre de la soirée Bouche-Trou juste avant ce festival, ouais.
D'accord. Et donc
on fait avec plaisir.
Et donc l'univers d'ADM, il est en construction, on peut dire. C'est pas encore bien arrivé.
En évolution.
Je vais te dire un truc très important, mon cher Manu.
Allez, c'est le moment.
On est tout le temps en construction. Attends, c'est quoi déjà la phrase de Virus? On revient à celui que t'étais avec l'expérience de celui que t'as essayé d'être, là, tu vois. Voilà.
C'est parfait.
Voilà.
Merci à tous les deux
Merci
d'être venus
toi.
Répondre
Merci.
À 2-3 questions. On écoute Némir et puis après Rod Amdala sera
et Octave,
avec nous.
Il passe en première partie de Némir.
Ah,
justement,
ben,
tu vois.
Eh ben, on aura l'occasion de le croiser ici même alors.
Exact.
Merci Romain.
De rien.
ADM.
Déteste qu'on m'appelle chef, je dirais jamais le prénom de ma bergère. Je suis grave perché, pourtant je fais le son que t'essera préfère. J'ai pas percé, je vais t'asperger. Talent, rendre talent que j'ai moins de temps qu'avant. Donc je prendrai plus jamais de grandes vacances. J't'ai mal leur paille, les rappeurs se cachent leur lancer. Notif Adobe, tu t'enrichis, ton couplet s'appauvrit. Ça m'arrive, rap, je suis grave autiste. On fait la qualité. Didaï et Bonnie, mes seules références. J'prends le promis à l'heure des écrans, j'grasse. Alors que les rocks salissent des buts, j'écris des phrases, des rébus, gros mets des couches, c'est que le début, on va leur faire. Les valeurs de merde dans les tiroirs, je raconte ma vie sans faire d'histoire, je suis comme tout le monde, j'aime les miroirs, moi. Je démarre en trompe, j'ai pas de label au poignet, écoute le son, faut que ton label au soin neuf. Des sables de merde, moi c'est mon flop, j'ai soigné, je travaille sur un pendant que blanche chez coiffeur. Rappeur, un des polydors, je les vois tomber dans la chenouf, jeune ambitieux polyglotte, plusieurs que dans une seule bouche. Je fais de l'exercice, je vous exorcise, si mère merci, le rap sorti. Hey. Je fais des jolis, jolis textes quand les comiques prolifèrent. Hey. Ça fait cette année, t'as pas le flow que mes oreilles demandent. Hey. Hey. Je me fous à poil, ça me permet d'écrire correctement. Démarre, je connais le scénar, je vais pas bédard pour leur plaire. J'ai la méga fièvre, un mec, je coupe leur laisse, là je démarre. Je déteste qu'on m'appelle fils, qui sont les plus, je crois que ça se précise. Sous les amnésiques, je me dis Romain, fais pas de bêtises, laisse leur délire, les tuer, je vide, terre et je vide mes rêves dans les chiottes, slip, chaussettes dans les loges, j'ai pas trop envie de t'aimer. Je les comprends plus, ils disent que Bendo flex, avant toute concurrence à baiser. Seul truc qu'ils ont baisé, c'est les leurs du réseau ferroviaire et j'ai rodé leurs textes de merde. Des méga de chouin, ça fait pareil comme les hôtesses de l'air. Comme dans le bac à sable, c'est le matraquage et je commence par les nuls. Acteurs du X plus que chanteurs, ils savent que parler de cul, parler de pute, parler de tube. Je préfère pioncer, masser le cul, jeune défoncé de la ripus. Squatter le pavé, cracher dessus. Je fais de l'exercice, je vous exorcise, si mère merci, le rap sorti. Je fais des jolis, jolis textes quand les comiques prolifèrent. Ça fait cette année, t'as pas le flow que mes oreilles demandent. Hey, hey, j'me fous à poil, ça me permet d'écrire correctement. J'me fous à poil, ça me permet d'écrire correctement.
Reçoit Koumousta qui ouvre pour eux ce soir. Mehdi, Alix, Clément, Louis, et c'est Clément et Alix qui sont là. Bonsoir à tous les deux.
Presque.
Mais c'est Mehdi et Clément, pardon.
C'est ça.
Donc on s'est croisés il y a quelques semaines pour les auditions des Inouïs du Printemps de Bourges, ici au 106. La saison dernière, vous avez fait partie des groupes accompagnés par la salle de concert rouennaise. Deux morceaux sur le label du 106, c'était il y a un an. Donc ça vous a permis de définir quoi, ces séances d'enregistrement avec Laurent Collat ici au 106? Un son, de trouver un son? Vous l'aviez déjà, ce son-là?
On avait déjà une idée un peu vague du son justement vers lequel on voulait tendre, et ça a permis justement d'avancer sur le travail de comment ça peut rendre en studio, et enfin c'est fait vraiment partie d'une des étapes clés qui nous a fait nous rendre compte de ce qu'on produisait, comment on pouvait le faire. Et
on n'avait jamais rien enregistré avant, donc on avait toujours eu des idées de gros sons, les guitares qui sonnent fort et tout, mais comme on n'avait jamais enregistré, on se doutait pas de comment ça pouvait sonner une fois enregistré, mixé. Surtout ça, on n'avait jamais connu
quelqu'un
qui mixe quelque chose, donc avec Laurent on a pu voir.
Ouais.
Et le résultat, comment dire, c'est pas évident. C'est pas évident à voir quand on est en train de le faire pour la première fois. T'as pas les codes du mixage, tu parles du truc avec le technicien, tu connais pas vraiment les mots et tout. Mais à force, plus on enregistre là, on a enregistré ces derniers temps 2-3 fois et on s'en sort mieux.
Notez que la dernière production sur le e-label du 106, c'est Unschooling. Unschooling des Rouennais, comme vous, donc des amis, des gens que vous côtoyez?
Bah carrément, des potes, des super potes à fond. C'est un des groupes aussi avec lequel on a commencé à bouger de rond pour faire des concerts, sur Nantes notamment. Et ouais, grave, super, crush à fond avec eux, quoi. On s'entend vraiment tous bien, on a les mêmes délires, on est à peu près de la même génération et tout, enfin, ça colle à 100%. Après, bon, c'est subjectif, hein, mais moi, je suis amoureux de ce groupe.
C'est subjectivement les meilleurs.
Avec le collectif Juan et Sosa, dont Unschooling fait aussi partie, vous avez fourni une reprise de Madonna, Material Girl. Elle est à Paris en ce moment, Madonna. Vous avez cherché à lui donner le disque ou pas? Est-ce que vous savez que les gens de Sosa ont cherché à la contacter pour lui donner le disque?
Je ne sais pas du tout, mais... Ça aurait été une très bonne
idée. Vite fait avec Quentin, je sais pas si elle est encore.
Si c'était possible ou pas, mais.
Je sais pas si elle est encore à Paris. Là, elle faisait quelques dates parisiennes. C'est peut-être encore. Il est peut-être encore temps de foncer là-bas. Vous avez joué il y a quelques semaines avec We At You Please Die à Paris, à la Boule Noire. C'était le 5 février dernier. Il y a un EP, Koumousta 1, qui est sorti fin novembre sur le label Kids Are Lofi, sur lequel on trouve aussi Seasonal Affective Disorder, par exemple. Vous nous expliquez comment ça marche avec ce label né du parcours des Rouennais. We At You Please Die, comment ça marche avec eux? C'est...
Comment dire, eux ils avaient déjà enregistré un album quand ils ont commencé ce projet là et ils apprennent la partie administration en même temps qu'on apprend la partie enregistrement, mixage, choisir avec qui on veut travailler et... c'est cool.
Donc
ils gèrent beaucoup l'administratif et comment dire, ils ont géré les cassettes aussi, les CD, notre support. Et plein d'autres choses, ils nous accompagnent, comment dire, si on a des questions tout le temps.
Et il y a une manière de faire qui est intéressante, en tout cas, de par aussi notre... à la petite échelle à laquelle on est pour le moment. Ce qui est bien, c'est que c'est des choses... Enfin, les t-shirts, etc. C'est de la sérigraphie, par exemple. Enfin, il y a quand même un côté assez... DIY, quoi, comme on dit, quoi. Et je trouve que ça...
On fait les choses par soi-même.
C'est, voilà, on les fait soi-même, mais on les fait de manière le plus professionnelle, je dirais, entre guillemets. Donc c'est une affaire qui roule, quoi. Ça reste dans la mentalité de ce qu'on aime.
Sinon, j'ai vu que vous aviez liké la page de la MJC d'Ifto. Il y a des enragés aussi à Ifto, je pense à Tritz qui était passé par ici.
Fait.
Vous avez des nouvelles? Parce que j'imagine que c'est aussi des gens avec qui vous pouvez vous entendre.
Ouais, c'était même avant tout des potes en fait, parce que de par des connaissances avec Near Death Experience aussi, l'artefact. et donc ouais, c'était des potes, on a fait nos premiers concerts avec eux, etc. On a partagé plein de bonnes choses avec eux. Et alors je suis pas sûr que ça soit sur ça va, je suis pas sûr que ça se
ça continue
ça, ça continue voilà mais je sais que chacun dans leur coin ont des projets musicaux ou autres etc donc ça a l'air de se passer très bien pour eux.
Bon, vous, vous êtes plutôt en train de prendre un peu votre envol. Vous disiez la dernière fois qu'on s'est croisés, on est ensemble, pas de frustration. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait des frottements aussi, quelquefois, dans le groupe. Ça fait partie du fonctionnement du groupe, d'avoir quelques frictions de temps en temps.
Pour ne pas être frustré sur le long terme, il faut parler des choses à chaque fois quand elles arrivent. Et quand on est amené à répéter 3 fois par semaine, à faire des concerts de temps en temps, on se voit tout le temps. Et à moins qu'on fasse rien et qu'on fasse que rigoler, bah... On produit, et donc qui dit produit dit faire des choix, et faire des choix dit friction quand on est 4.
Mais ça se passe toujours bien, il y a toujours à un moment donné quelque chose qui se dégage.
Bah oui, parce qu'on est quand même sur, on essaye de garder un fil conducteur de travail, où on se dit, parce que ça arrive, comme je disais aussi, on est potes avant de faire de la musique ensemble, donc forcément, il y a des fois où ça clash, ou quand on passe énormément de temps ensemble et tout, il y a des fois où...
Ouais, on aime bien aussi.
Voilà, mais voilà, c'est ça. Il y a un petit jeu, un petit peu, un truc un peu charnel aussi, je pense, derrière tout ça.
vous disiez aussi être à la recherche du style Kumusta pour le prochain OP. Peut-être que pour vous, il s'agit aussi de se démarquer d'une influence qui semble évidente. Idols, on a tous été bluffés hein, par Idols et les concerts d'Idols, j'imagine que vous aussi quoi du coup.
Ouais, la première fois que je les ai entendus, on m'a parlé d'eux, parce qu'ils étaient passés à un festoche à Saint-Malo je crois, et des potes qui avaient pris une tarte dans la gueule quoi, qui s'y attendaient pas du tout. Et donc j'ai découvert ça, après je suis venu les voir une fois ici, c'était la première fois, c'était dans la petite salle.
Ouais.
Ils n'avaient pas encore sorti leur nouvel album, je crois.
Non.
Et ouais, bah ouais, forcément, tarte, bonne petite tarte dans la gueule, comme on dirait, comme avec beaucoup d'autres groupes aussi, hein. Enfin, même des petits groupes nantais, des potes, des mecs qui n'ont même pas encore enregistré des trucs que j'ai vu en concert, où ça m'arrive quand même assez rarement de prendre des...
Des méchantes tartes, voilà. Mais Only Size à Nantes...
Voilà, par exemple.
Mais du coup, peut-être la recherche pour s'écarter de cette grosse influence en affinant votre style, votre identité, c'est aussi ça la démarche du moment, peut-être aussi, non? Pas forcément.
Affirmer notre identité, je sais pas, parce que dès lors du moment où on a commencé à faire de la musique, on était bien d'accord sur ce vers quoi on voulait tendre, en fait. Mais donc bien sûr que Idols, dans l'idée, nous a même plus particulièrement moi influencé, peut-être dans les gestuels et le côté... en fait, ça m'a permis de prendre conscience que je pouvais me comporter de la manière dont j'avais le plus envie de pratiquer notre musique, en fait.
En toute liberté.
Voilà, en toute liberté. Et je sais pas quoi te dire de plus.
Ben, c'est une bonne réponse. La sensation aussi qu'on peut avoir, c'est que Kumusta, c'est aussi l'expression d'une forme de culture de classe, un peu, mais peut-être que je me trompe. Plutôt la classe ouvrière, on peut dire ça ou pas?
Oui.
Ouais. La culture ouvrière, c'est quoi pour vous aujourd'hui, en 2020?
Le sujet est extrêmement vaste, mais je dirais que c'est tout un tas d'individus, couleur de peau, religion mélangées, qui vont travailler pour un idéal de vie auquel ils croient, et qui au final, à mon sens, pas ce dont on a besoin pour être heureux. Je dirais ça comme ça.
C'est-à-dire que le petit pavillon avec le jardin et le chien qui va bien avec, voilà. C'est pas forcément ça qu'il faut aller chercher.
Voilà, après, faut être dans la demi-mesure, dans le sens où c'est légitime de la part d'une majorité de personnes de voir le bonheur de cette manière-là. Après, moi j'ai eu assez d'exemples autour de moi pour me rendre compte que j'ai pas l'impression que c'est rendu grand monde heureux dans ma famille de travailler 45 ans dans la même usine. Après... c'est des choix qui sont... moi, je suis même presque admiratif des gens qui prennent cet engagement-là. Quoi. C'est quelque chose de fort, de vouer sa vie au travail, quoi, en fait, tout simplement. Que ce soit un travail d'usine ou un travail... je trouve ça... j'aime les gens passionnés, et mine de rien, il y a des gens qui peuvent rester 40 ans sur la même chaîne à pratiquer le même geste et qui pourront parler de leur boulot avec passion, même s'ils ne le font pas forcément par envie.
dirais.
Et Kombucha, c'est aussi la possibilité d'échapper à ça ou pas? Ou c'est un cliché, ça?
Non, en vrai, grave. Hein. Enfin, comment dire? Le truc, quand t'as pas d'argent, c'est qu'il faut essayer de trouver comment passer du bon temps, mais plus ou moins gratos. Donc,
c'est clair. Non, mais
on se fait pas payer les prestations quand on fait des répètes entre nous. Ou je sais pas. On se paye des fois en cigarettes ou des trucs comme ça. Ouais. On va dire, mais sinon, non. C'est un bon moyen de passer du temps gratuitement.
Et de kiffer, en fait, de faire tout simplement ce qu'on a le plus envie de faire, parce que je pense qu'il y a plein d'artistes cachés dans les usines pour grossir le truc, quoi. Il y a peut-être des gens qui ont des passions, qui, je sais pas, qui aiment le modélisme, la planche à voile, j'en sais rien, mais qui peuvent pas vouer leur temps de vie, parce que c'est ça aussi, c'est combien de temps on passe à dormir et combien de temps on passe à travailler. Moi, je trouve que c'est quand même quelque chose de... Enfin, très petit, j'ai remarqué ce truc-là, qui est quand même assez ouf, quoi. Et je pense que c'est ça, le côté avoir l'opportunité de faire quelque chose non rémunéré majoritairement qui nous fait kiffer, en fait, tout simplement. Je trouve que c'est pas donné à tout le monde, et c'est pour ça que ça fait vraiment plaisir de continuer à faire ça et de pas s'arrêter. Je pense que on verra comment ça s'arrêtera, mais pour le moment, c'est pas prévu.
En tout cas, vous donnez cette option-là. Merci à vous d'être venu, Kombucha. Donc, vous serez sur la scène dans pas très longtemps. Donc, on va vous laisser aller vous préparer. Merci encore.
Merci
d'être,
à toi.
D'être venu. Et on accueille The Lords of Altamont, Jake, The Preacher, Cavaliere, Barry est là également. Création 99, 6 albums, le dernier sorti en 2017, intitulé The Wild Sounds of the Lords of Altamont. Forcément la chevauchée sauvage dans la tête, la route 66 à perte de vue, un aigle tatoué dans le dos sur une Harley Davidson, cheveux au vent vers l'horizon. Steppenwolf, Born to be Wild, c'est bien ça. On est dans cette imagerie de l'Amérique éprise de liberté, les cow-boys, les feux de camp sur le bord de la route entre l'équipée sauvage de Marlon Brando et Easy Rider.
Wild Angels, to be exact, but yes, Easy Rider as well. Yeah, for sure. Definitely the culture changes from lifestyle of hippies and drugs and rock and roll.
Oui, donc effectivement, bah oui, c'est ça. Hein, il y a ce changement, ce passage entre l'âge hippie et puis l'âge rock'n'roll. Jake avait une question. You wanted to, you know, tell us something about the keyboard player from Steppenwolf?
Oh, Maurice Bonfire. Yeah, yeah, really cool guy.
Il voulait parler de Maurice Bonfire, qui est le clavier de Steppenwolf.
Big afro.
Avec une grosse coupe afro.
Danny Sin expliquait dans une interview en 2014 que les Lords, c'est vraiment un gang, on croit à la même chose, et tout le monde apparemment semblait plus ou moins d'accord là-dessus. Vous croyez vous, en quoi, du coup, quels sont les idéaux que vous partagez dans votre gang?
Well, you live Lords, die Lords. Once you're a Lord, you're always a Lord.
Ouais, on est Lords of Altamont et on meurt Lords of Altamont. Voilà.
Vous pratiquez la moto?
Of course.
Quel est le plus beau trip que vous ayez fait en Amérique?
From my house to the local bar.
C'est de sa maison jusqu'au bar d'à côté.
Mais est-ce qu'il y a quand même ça existe ça dans l'imagerie américaine, ce départ vers l'horizon? Est-ce que vous avez pratiqué ce genre de choses, et est-ce qu'il y a une image particulière, une aventure particulière qui vous reste en tête?
The desert is amazing, ouais. On a bike. Yes, the sun coming up or the sun.
Bah, le désert, voilà. Rouler dans le désert, c'est quelque chose d'extraordinaire, surtout avec le soleil couchant ou levant. Il faisait partie d'un club de moto, hein, et donc il a eu cette expérience de rouler avec plus de 100 motards. Il dit que ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.
Et ce mythe de la liberté sous Trump, il en est où?
Oh gosh, see, I mean, I have to say, like Trump does not exist to me.
Trump, il ne connaît pas. Il dit qu'il habite dans ce pays, certes, mais il ne participe pas à cette supercherie et continue à faire ce qu'il a toujours fait depuis qu'il est petit.
C'est durant ce morceau des Rolling Stones en 1969 lors du festival d'Altamont que Meredith Hunter est tuée par un Hells Angels qui assurait la sécurité. Le festival d'Altamont qui va donc dégénérer et marquer sans doute symboliquement la fin du mouvement hippie. Vous nous expliquez ce que représente ce moment-là pour vous?
Well, for us, originally when we started the band, you have to remember that... I mean, we started the band 21 years ago.
Une chose qui est importante, c'est que Jake a démarré ce groupe il y a 21 ans, donc évidemment, il était une autre personne. Mais ce qui reste, c'est le fait que ce moment, c'est un tournant vraiment essentiel au niveau de la façon d'envisager les choses, la façon de se battre socialement. C'est vraiment la rupture avec le Summer of Love, enfin, les hippies. Et donc, pour eux, c'était essentiel de parler de ce moment-là. Et c'est ça que ça signifie pour eux.
C'est vrai que l'imagerie qu'on a aussi des hippies, c'est cette vision un peu écologique aussi, peut-être les premiers écolos, cette volonté de sauver la Terre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne vous sentez pas plus hippie qu'hier quand même?
Well, we learn a little bit every day, right? The awareness.
Il dit on apprend tous les jours, donc effectivement, il a dû changer, apprendre de ses erreurs, apprendre de la vie. Il fait tout son possible pour pas laisser une empreinte carbone trop importante. Mais en même temps, c'est sûr qu'il a un esprit punk. Alors voilà, avoir un esprit punk sans pour autant faire le connard et tout détruire, c'est un petit peu l'enjeu.
The Cramps, She Said, Jack Cavaliere, vous avez été pendant 10 ans le manager des Cramps, groupe de rock-ab américain de New York formé en 75, dissous après la mort du chanteur Lux Interior en 2009. Quel souvenir vous avez de cette période-là?
Wow, specific, I mean we could spend the rest of the night talking, I mean, this band is true to my heart, these two people really touched me. In a way, I'm sure.
Les Cramps, comme beaucoup de personnes, c'est des gens qui sont chers à son cœur, mais lui, il a eu la chance d'être très proche d'eux. Et lui dit, voilà, on pourrait passer la nuit à raconter des anecdotes à propos de cette époque, parce que lui, il s'occupait de tout ce qui était lié à la scène. Et donc, voilà, il a une anecdote particulière, c'est un concert à Chicago, et donc voilà, il y a le centre de guitare sur le côté de la scène. Et il se trouve qu'il n'y a pas de sécu, donc les gens commencent à grimper sur scène et lui essaye de les empêcher d'aller vers le stand de guitare, de grimper sur scène, et puis finit par redescendre, de se retrouver dans le public, dans le pit. Et donc les gens sont super excités, lui enlève son t-shirt, donc il se retrouve comme un idiot avec aucun signe distinctif, il a juste ses tatouages et il ne peut plus remonter sur scène. Donc Lux et Poison Ivy essayent de le faire remonter sur scène, le tirent pendant quand même la sécu le tire de l'autre côté, donc il termine avec des côtes cassées. cassé. Et il se retrouve sur scène, et donc il est dans son coin en train de maugréer parce qu'il a mal. Et là, qu'est-ce qui lui arrive? Un pied de micro en pleine face qui arrive sur la tête et qui lui ouvre une partie du visage et qui lui casse la clavicule. Was it a shoulder bone? La clavicule. Et donc, voilà, il se retrouve sur scène comme ça. À attendre que ça se passe, et pendant le concert Poison Ivy voit qu'il est pas bien, se rend compte que son t-shirt est plein de sang, et donc lui dit non, il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu ailles à l'hôpital. Donc elle a pris le temps de prendre soin de lui, et donc il va à l'hôpital, et juste après le concert, encore maquillé, Lux et Poison viennent le voir et sont assis au bout du lit pour prendre de ses nouvelles, quoi. Donc preuve s'il en est que c'était des personnes vraiment très, très, très bien.
Le dur apprentissage du rock'n'roll et la solidarité dans le rock'n'roll. Puisque nous en sommes à évoquer les légendes de la musique rock. Michael Davis du MC5 a joué avec vous. Il est mort un 16 février en 2012. Parlait du MC5. Est-ce qu'il, lui, il vous parlait du MC5, des débuts de ce groupe fondateur? Qu'est-ce qu'il vous a raconté?
This was very special for me because that too.
Il montrait qu'il avait un tatouage des Cramps, hein, des paroles de New Kind of Cake, if I'm correct, d'une chanson, très bonne chanson des Cramps. Et donc, oui, bah, il parlait de Michael Davis, donc il a eu la chance effectivement de tourner avec lui. Donc, une tournée, bah, ça veut dire être dans le van, dans le minivan, des heures durant. Donc, bah, quand il avait envie de causer d'anecdotes, bah, il parlait des anecdotes du MC5 comme s'ils étaient des ados, et de façon très, très naturelle. Et donc, bah, c'est hors du commun, c'est une expérience extraordinaire qui le remue encore maintenant. Et donc, il a ce tatouage de Nune Parole des Cramps, et puis un portrait de... Is that Lux or is it Poison?
I got Lux, God Monster at the end of the world, sorry about that, and I have Michael Davis.
Il a Lux, il a le monstre Cramps, et puis Michael Davis en tatouage.
Et juste pour MC5, c'est un groupe très politisé, proche des Black Panthers. Est-ce que ça fait partie aussi de ce qui vous constitue un peu, vous aussi, du coup?
Well, the rebellion, you know, fight the system. You know what I'm saying? These guys.
Ouais, donc, bah, oui, c'est très important pour lui. La rébellion contre le système, c'est essentiel. Et il se considère White Panther. Et d'ailleurs, ses camarades dans le groupe actuel, ils sont néerlandais. Et donc, du coup, ils ont eu l'occasion de voir régulièrement John Sinclair, qui est le père du White Panther, hein, le mouvement qui était en réponse au. En réponse au complémentaire des Black Panthers. Et donc, Jake précisait que John Sinclair est, paraît-il, revenu à Détroit. Donc, il va sans doute recommencer quelque chose.
Peut-être une dernière question, justement. The Cramps et MC5, quelle place ont ces précurseurs dans la mémoire collective américaine? Ce qui peut-être définira aussi peut-être un peu la place que vous pouvez avoir, vous, dans la société américaine aujourd'hui.
For myself, it's only preservation. I mean, I'm a fan. You know what I mean?
Ces groupes-là, et ce que fait les Lords of Altamont, c'est préserver cet héritage, hein, préserver, limiter, et c'est une façon surtout de sortir de ce monde désensibilisé, sans sentiment qu'est le nôtre, où ce qu'il dit n'a pas d'importance, et il dit voilà, la révolution ne sera pas télévisée.
On va aller chercher des émotions ce soir face à vous. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous.
Thank you very much.
Thanks.
Appreciate it. We'll be right back.
L'émission du 106.
Un trio franco-américain, Aurélien Amzalag et des frères jumeaux de nationalité américaine-espagnole, Aaron López Barrantes, comme ça qu'on dit, guitare, chant, et Samuel López Barrantes. Thibaut est là sur scène également avec vous pendant la tournée. Et donc il est là ce soir également avec nous autour de cette table. Un groupe qui navigue entre les États-Unis et l'Europe. Un EP est sorti en octobre intitulé Slim and the Beast, tout simplement. Et un album est attendu pour cette année. On va en parler. Vous êtes passé par la Nouvelle-Orléans. En fait, c'est Aurélien qui s'est installé là-bas. Comment vous vous retrouvez donc à la Nouvelle-Orléans? Parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu le point de départ de tout ça, quoi.
Ouais, bien sûr.
En fait, Aaron, un des deux frères jumeaux, vivait là-bas depuis 9 ans à peu près. Et Samuel, son frère, est venu me voir un jour quand tous les deux on habitait en Europe, en me disant, en fait, j'ai envie de partir, j'ai envie de vivre vraiment l'expérience américaine qu'on connaissait bien de notre enfance, avec mon frère jumeau à la Nouvelle-Orléans, qui est un peu le berceau de beaucoup de styles de musique, dont un peu de ce qu'on joue aussi, folk, blues, pop aussi. Donc on s'est dit, allez, on y va, on retrouve Aaron, et on est tous partis, enfin à deux, retrouver le troisième qui nous attendait là-bas, et on a passé beaucoup de temps là-bas à composer l'album. Et après, on a ramené Aaron avec nous en France il y a à peu près un an.
Et vous vous connaissez tous depuis longtemps, en fait? Bah forcément, les deux frangins se connaissent depuis longtemps.
Nous, ça fait 32 ans, on a 32 ans, voilà. Aurélien, je l'ai
parlé bien proche du micro.
Ah, pardon. J'ai rencontré sur un terrain de basket à Paris en 2015, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de joueurs français. Et du coup, quand il y avait un Américain qui est arrivé et jouait la musique aussi, je me suis dit, ah bah, c'est rare de rencontrer un Américain qui joue le basket et aussi
du blues. Perle rare.
Voilà. Donc, on se connaît tous depuis 2015 maintenant. Voilà.
La Nouvelle-Orléans, vous y avez d'ailleurs joué votre premier concert. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce moment-là?
Oui, alors, c'était...
Je pense que le premier concert, c'était juste autour de Jazz Fest. Ouais. C'était, il y a le grand festival de jazz de la Nouvelle-Orléans. Et il y a très souvent des traditions autour du Jazz Fest, et en fait tout le temps à la Nouvelle-Orléans, où on joue devant des maisons pendant qu'ils dégustent des crevettes, les écrevisses, crawfish.
Ouais.
Et donc il y avait une soirée crawfish, un peu aussi en hommage aussi à tout le festival et toute la culture la Nouvelle-Orléans. On nous a invités pour jouer et on a fait on a bien fait nos marques là-bas en jouant bien amplifié devant tous les passants qui quittaient le festival, qui nous ont vus jouer pendant qu'il y avait une fête où tout le monde mangeait. C'était vraiment l'ambiance typique américaine. Et c'est là où les gens ont commencé à dire, ah ben vous venez d'où, qu'est-ce que vous faites ici?
Et comment on se retrouve sur ce genre de concert?
Bah, en fait, Aaron, qui vivait là-bas, il avait déjà beaucoup de potes là-bas et c'était vraiment son territoire, quoi. Donc, c'est grâce à sa communauté à lui qu'il avait déjà établi qu'on a pu s'y joindre.
Alors, dans une interview pour Soul Kitchen, j'ai vu également que vous aviez croisé un personnage un peu particulier qui s'appelle Red Hawk, Faucon Rouge, qui vous
Red
a invité.
C'est un légende.
Ouais. Racontez-nous, parlez-nous de lui.
Bah, de ce que je connais de lui, you remember Red Hawk, you know, from the...
Yeah.
Just say something quick about Red Hawk. I know less than you do.
We met this guy named Red Hawk at this historic...
C'est un légende parce qu'il a des racines américaines natives et donc il est bien connu, respecté dans la communauté. Et il est resté pendant tout le set, qui apparemment c'était assez rare pour Red Hawk. Normalement, c'est un mec un peu vieux, genre, il en a marre très vite. Et le fait qu'il était devant nous pendant tout le set, ça nous a vraiment marqué. Il nous a invités de revenir un jour pour jouer. Il fait des soirées chez lui. Et...
Des soirées un peu spirituelles, un peu...
Ouais, j'ai vu qu'il y avait une histoire de solstice d'été.
Voilà,
qu'on fait,
exactement.
Qu'on fait, bah ouais, c'est ça.
On y était au mois de juin et donc il a dit « Ah, je vous choisis, vous, pour venir à ma soirée de solstice où il se passe tout un tas de magie, de choses. »
Bah, c'est un peu mystique, vous avez vécu quoi lors de cette soirée?
Bah, en fait, on est parti juste avant.
C'était dommage. Ouais.
On est parti juste avant la soirée, mais on a entendu beaucoup parler de ça et c'était c'est à refaire en tout cas.
Vous dites que ça vous a confirmé dans la connexion que vous aviez avec la culture locale de la Nouvelle-Orléans notamment. De quelle connexion on parle là véritablement?
Je crois qu'il y a une connexion déjà humaine avec les gens, c'est-à-dire que les gens là-bas sont très artistiques en fait, tous de tout type d'art, tout médium. Il y a une vraie sensibilité culturelle qu'on trouve dans cette ville, qu'on trouve pas forcément dans toutes les villes des États-Unis. Il y a un vrai mélange de cultures aussi. Donc pour nous déjà c'était une grosse source d'inspiration musicale parce qu'on a vu vraiment tout type de personnes, on a entendu tout type de musique et ça nous a beaucoup inspiré pour jouer des morceaux inspirés du blues qui est vraiment aussi né là-bas, enfin là-bas entre autres, et la folk aussi. Donc il y avait beaucoup de... Et c'est très visuel aussi là-bas, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup d'odeurs, il y a beaucoup de... C'est très chargé en fait. Donc on a une connexion, on va dire, de tous les sens les cinq sens en fait.
Ouais, c'est cuisine, musique, c'est même en marchant dans la rue, il y a c'est souvent que tu croises quelqu'un et tu arrêtes juste pour parler un peu, dire comment ça va, tu t'appelles comment, et c'est vraiment naturel.
Et vous êtes senti très à l'aise dans cet environnement.
Ouais, voilà. Vraiment bien du sud des States, du Caroline du Nord, du coup, ça fait partie de la culture dans le sud. Tout le monde est vraiment accueillant, c'est Southern Charm.
Et moi, c'est marrant parce que je viens de New York, en fait, à la base, d'une grosse ville qui n'a vraiment rien à voir. Donc, je me souviens, je me baladais avec Samuel un jour dans une boutique, et dans la boutique, la première chose que la personne vient nous dire, c'est « Hey, how are you? Where are you going? Where are you from? » Et moi, en tant que New Yorkais, je suis un peu genre « Oh, qu'est-ce qu'il y a là ?» Et en fait, Samuel m'a dit « Ah, toi, t'es vraiment pas du Sud. Hein. Ça, c'est vraiment le style relax et tout ça. » Et donc, j'ai adopté en fait ce style et ça m'a tellement plu, ça m'a détendu et ça m'a aussi inspiré aussi. Ça m'a mis un peu sur un autre plan, on va dire.
Pour détendre les New-Yorkais, aller à la Nouvelle-Orléans.
Voilà.
Sent donc forcément une forme de mondialisation un peu entre les États-Unis et l'Europe, l'Espagne aussi, forcément. Elle est où votre base, alors, finalement ? C'est les États-Unis, on peut dire ça ou pas ?
Ouais, je pense qu'on peut dire, parce qu'on a grandi là-bas, quand même. Même si on a des racines européennes, notre père est espagnol, Aurélien a des parents français, mais on a grandi aux States et ça nous a marqué, surtout la musique. Mon frère et moi, c'était du folk et du blues en Caroline du Nord. Aurélien, beaucoup de hip-hop à New York. On est quand même, ouais, on est un groupe américain à la base, mais...
Mais avec du sang européen aussi. Ouais. Donc c'est... Enfin, moi, en tout cas, je me suis beaucoup posé cette question et je la pose encore maintenant à moi-même. J'ai deux bases. Vraiment.
Vous avez vécu tous les trois votre enfance véritablement aux
aux États-Unis, vraiment. Donc, on est profondément américain. Mais moi, et je pense que aussi quelque part, enfin, leur père est vraiment espagnol, et moi, ma mère vraiment française. Et donc, on a vraiment cette double casquette qui nous permet aussi de s'exporter, de se sentir à l'aise et de voyager et de faire ressentir ça dans notre musique aussi.
Et justement, le fait d'être américain, vous pensez que ça vous a fait aborder la création musicale aussi différemment ou pas ?
Oui, parce que nos backgrounds pour la musique, c'est, en France, ça peut être assez rigide, des fois avec les conservatoires, etc. Moi, j'ai commencé à jouer de l'harmonica à 22 ans, par exemple. Et moi, j'ai chanté toute ma vie. Mais ouais, c'est une connexion un peu plus...
Spontanée, peut-être.
Oui, spontanée. C'est vraiment un besoin après un moment qui n'est pas... Je n'ai pas étudié la musique dans la même manière que quelqu'un qui est allé dans les grandes écoles, mon frère non plus. Lui, il a étudié la musique en allant à Nouvelle-Orléans.
C'est un peu le do-it-yourself, comme on dit, le côté américain où tout le monde peut faire ce qu'on veut, quand il veut. C'est très... voilà, on est opportuniste, mais dans le sens aussi très productif et on n'a pas besoin de faire toutes les études. Bon, il y a des exceptions partout, c'est sûr, mais ce côté américain de vraiment tout est possible. Ça nous a beaucoup inspiré aussi, pour quitter les jobs qu'on faisait avant et de se dire, OK, on se barre, on va aux États-Unis, là, on est chez nous et on se sent bien là-bas parce qu'on peut être qui on veut.
Parce qu'en fait, vous avez quitté tous les États-Unis, à part Aaron qui est donc à lui et resté aux États-Unis.
Exactement.
Vous êtes revenus tous les deux en France et vous avez entamé chacun une carrière. Vous avez bossé, vous avez suivi des...
On a bossé, on a fait des études. Après, à un moment, on est reparti aux États-Unis
pour la musique.
Exactement. Et maintenant, on est revenu en Europe pour la musique.
En fait, heureusement qu'Aaron est resté là-bas pour maintenir le lien avec la musique, quelque part.
Ouais, c'est ça.
Pour maintenir le lien, ouais, avec les États-Unis, surtout de nous dire, allez, revenez à nos sources. Et voilà, on compose à partir de là. Et après, peut-être qu'on se réexporte en Europe. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Mais on est tout à fait ouvert aussi à retourner aux États-Unis.
Aaron, donc, est né en Caroline du Nord. Et chez vous, on écoutait les Beatles, Neil Young et puis James Taylor. In my mind, I'm gone to Carolina. Est-ce que vous pouvez nous parler, Aaron, est-ce que vous pouvez traduire la question du rôle de ces artistes de proximité aux États-Unis?
How did those three artists for you like really influence you?
Oh man, growing up in North Carolina, I fell in love with the guitar when I was 14.
Aaron dit que James Taylor qui est né là-bas, enfin qui vient de là-bas, de la Caroline du Nord, on va dire, et Neil Young qui fait un peu partie de cette même génération de songwriters des années 70, ça a vraiment touché profondément Aaron qui adore le côté finger picking, le côté assez complexe de la voix et du jeu, et il était vraiment sensible à ça et c'est ce qui l'a bercé. Mais Samuel aussi, son frère, et moi aussi, en fait. Donc, et les Beatles, évidemment, c'est international, mais c'est un peu. Il y a cette sensibilité aussi très, très harmonique.
Oui, c'est ça. Ouais. Harmonieuse. Justement, pour le magazine Rolling Stones et les 50 ans du festival de Woodstock, vous avez fourni différentes reprises de chansons entendues lors du festival. D'abord, c'est un sacré cadeau que vous a offert le magazine d'aller piocher dans ce répertoire-là, quand même.
Ouais. Oui, c'était pour les 50 ans du festival. Ouais. Rolling Stone a dit, bah, allez-y, faites les 4 reprises qui pour vous sont les plus marquantes de ce festival et que vous pensez pouvoir interpréter au mieux. Et ouais, c'était un super cadeau. Donc on a cherché, on a réfléchi et puis on adore chanter en harmonie. Donc on a pris des morceaux qui en avaient plus ou moins des harmonies. Parfois on en a rajouté à notre façon. On a fait un Jimi Hendrix qui à la base n'en a pas, mais on a mis beaucoup d'harmonie vocale, un bon solo de guitare d'Aaron, de l'harmonica qu'on n'a pas non plus à la base. Donc c'était un vrai cadeau de Rolling Stone. Et aussi ils nous ont aussi donné l'opportunité de s'exprimer à notre façon, tout en étant quand même fidèle un peu au style de l'époque.
Alors vous avez repris With a Little Help from My Friends des Beatles, on en mm-hmm. parlait tout à l'heure, référence absolue pour vous, parmi vos références les plus importantes. Et puis par exemple ce morceau de Crosby, Stills and Nash. Helplessly hoping her harlequin hovers nearby. Alors on entend aussi les harmonies avec la voix. Hier ici même, il y avait The Lords of Altamont qui font eux référence à un autre festival organisé pour répondre à la frustration des Rolling Stones de ne pas avoir pu participer au festival de Woodstock. Un festival qui marque la fin symbolique du mouvement hippie et donc l'annihilation quasiment du message de ces groupes comme Crosby, Stills and Nash. Cette dimension politique, elle vous intéresse aussi ou elle fait partie pour vous juste de l'histoire ?
Non, ça nous intéresse évidemment. Là, on vit dans un moment aussi qui est quand même important pour l'être humain en soi, surtout écologiquement. Donc, on pense à ça, surtout la majorité de nos chansons, il y a beaucoup de références de nature, juste l'idée de voyager, mais voyager pour rencontrer, pour faire des liens avec d'autres cultures. Là, on vit dans un moment un peu dans les extrémités. Donc, politiquement, pour le moment, évidemment, on n'a pas écrit un manifesto, mais on aimerait bien penser que la musique qu'on joue, c'est aussi une manière de réunir des gens et surtout de réfléchir un peu plus sur notre relation avec la nature, surtout, et le voyage et les cultures.
Donc finalement, vous êtes toujours dans cette lignée.
Oui, je pense que c'est impossible d'éviter. Dans tous les cas, on est des artistes et on ne peut pas se réveiller un matin en sachant que l'Australie est en train de se brûler sans avoir une idée à propos de ça ou une réaction. Donc ça nous, évidemment, ça nous inspire dans un sens. Inspirer, ce n'est pas nécessairement le bon mot, mais... Et voilà.
En tout cas, dans la lignée de ces groupes de Woodstock qui déjà disaient
ouais,
ça. Quoi.
Exactement, ouais, exactement, exactement.
Votre ambition, c'est donc de réinterpréter cette bande-son de la fin des années 60 avec vos compositions à la sauce 2020, on peut dire ça ?
On va dire vraiment à la sauce 2020. Je pense que c'est le mot-clé parce qu'on adore nos influences et nos origines, mais on n'est pas là pour juste recycler ce qui a déjà été fait. Au contraire, on a envie d'innover. Mais on est vraiment à cheval entre des compositions qui sont très harmonieuses, qui sont très folk parfois. Mais en fait, au fur et à mesure de l'histoire de notre groupe, on s'associe aussi avec des producteurs, des arrangeurs qui nous apportent aussi beaucoup d'inspiration moderne. On travaille avec pas mal de gens à Paris de renom qui justement apportent cette touche de modernité et qui se fait, je trouve, d'une manière assez subtile, mais avec goût, fait voyager notre musique depuis le passé à aujourd'hui.
On va en parler. Et comment est-ce qu'on aborde justement la musique différemment, selon vous, 50 ans après Woodstock ?
Je pense qu'on part d'une base, en tout cas nous, on part d'une base de guitare folk, trois voix très vintage, très organique, on va dire, comme ce qu'on peut même entendre à Woodstock. Il y avait le début des guitares électriques, évidemment, et Aaron est très très bon en électrique. Donc je pense qu'on a les racines de Woodstock, mais avec l'amour, moi, du hip-hop, de la musique électronique, grandissant à New York, eux aussi sont très ouverts à l'électro et tout ça, et la pop. Naturellement, en fait, les influences viennent et on s'associe avec des gens aussi, des arrangeurs qui ont aussi les outils pour planter aussi les graines de ce style pour que ça fasse un beau mélange. En fait.
Alors on l'a compris, vous avez des origines américaines, mais vous êtes tout de même venu chercher des producteurs français, dont Irfane. Ça c'est Breakbot, et puis avec ce morceau Baby I'm Yours, ou alors Jan Gorodetsky de Gush. Baby, Alors pourquoi est-ce que vous êtes venu chercher ces deux artistes-là ?
Alors en fait, c'est drôle parce que Yann de Gush est venu grâce à un des membres de Caravan Palace, parce qu'on connaît bien les membres de Caravan Palace. Moi, j'ai travaillé en tant que parolier pour eux. Et à un moment, il a dit « Ah, je sais qu'Aurélien, tu as ton groupe et tout. Peut-être qu'il faudrait une petite touche de modernité, un peu comme ce que fait Caravan Palace avec leur style aussi. » Et il a dit « Bah, j'ai quelqu'un pour toi. Tu devrais rencontrer Yann de Gush. » Coup de téléphone avec Yann. Yann adore ce style de musique vintage aussi. Je pense qu'il y a un truc à faire avec vous pour le moderniser un peu. Tac, c'est parti. Et Irfan, en fait, parce que j'ai un membre de ma famille qui est dans la famille Headbanger. Et Irfan, donc, j'ai rencontré à travers mon cousin et toute cette clique un peu de French Touch française que je connais depuis très longtemps. Et donc, pareil, Irfan qui est très sensible à ce style de musique aussi. Breakbot, enfin, les deux. Et voilà, donc comme ça, et puis d'autres connexions aussi qu'on s'est fait grâce à ces personnes-là.
Il y avait de nombreuses connexions tout de même.
Il y en avait quelques-unes, ouais. Ouais, ouais.
Qui ont facilité sans doute les choses.
Oui, ouais, ouais, c'est sûr.
Et pour terminer, vous en êtes où alors en ce qui concerne cet album qui doit sortir cette année ?
Alors là, on a, on va dire, on a 7 morceaux qui sont quasi prêts, certains qui sont déjà passés dans le mix, qui sont prêts à être masterisés. Justement, on se pose la question, et on vous le dit en vrai, est-ce qu'on sort un EP de 7 titres ? Ou est-ce qu'on attend un tout petit peu plus pour rajouter 3-4 titres et en faire un album ? C'est un peu la question qu'on se pose, mais en tout cas, on a, on va dire, les trois quarts d'un album qui sont prêts, qui est défini, qui est... Voilà, et on commence à juste à se dire, bah, on a de la matière à continuer à mixer, à arranger. Est-ce qu'on attend un petit peu plus ou pas ? Mais je pense qu'en tout cas, en 2020, il y aura au moins une sortie de 1, 2, 3 morceaux, voire un EP et peut-être l'album.
Très bien. Merci à vous d'être
venu. Merci beaucoup.
Radio Lomax, c'est fini pour aujourd'hui. Les concerts cette semaine au 106, ça commence demain soir à 18h30 pour le 106 Experience numéro 91. Spring Taste, Chain Gang of One et DJ Quechua. Le lendemain, vernissage de la nouvelle exposition du 106 Jamaica Insula, avec à l'occasion une conférence reggae et politique, La guerre froide tropicale, proposée par Thibaut Erangar. Jeudi soir, concert de Last Train et Norma. Et enfin vendredi soir, concert de Cadavar avec Witchfinder. À la semaine prochaine.
Carry me further than play. I know green of the hillside covered in snow. If I get lost, no moon in the sky.